je ne serais pas arrivée là si... Virginie Despentes.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast.
Virginie Despentes. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas arrêté de boire à 30 ans. L'alcool a probablement été l'une des défenses les plus intéressantes et les plus importantes de ma vie. Mais je n'aurais pas pu écrire King Kong Theory et tous mes derniers livres si je n'avais pas arrêté. La vie, c'est comme traverser plusieurs pays. Et ce pays dans lequel je vis depuis plusieurs années, il n'a été accessible que par une réflexion, une discipline et un effort par rapport à la dépendance envers les drogues douces, et particulièrement l'alcool. Je suis favorable à la légalisation de toutes les drogues. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est anodin. Les gens ne s'en rendent pas compte et n'ont aucune idée de la difficulté à arrêter.
Quand avez-vous commencé à boire ?
La première fois, j'avais 12 ans, je m'en souviens parfaitement. C'était un mariage à Nancy en 1982. J'ai bu un verre et je suis tombée en arrière, en pensant « Waouh, quel truc, ça s'ouvre à moi !» Et je suis tombée amoureuse de l'alcool. Vraiment amoureuse.
Pour la griserie qu'il procure ?
Oui, j'avais trouvé ma substance. Et très vite, adolescente, j'ai eu une pratique de l'alcool très sociale, dans les bars, les fêtes, les bandes de copains. En fait, tout ce que je faisais à l'extérieur de chez moi, j'ai appris à le faire avec l'alcool. Et puis à 28 ans, j'ai eu un déclic. Ça ne collait pas avec le fait de devenir auteur.
Vous n'aviez plus le contrôle ?
Non. Et je me rendais compte que j'étais incapable de me confronter à une situation sociale sans boire. Alors aidée par mes agendas, où je note tout, j'ai commencé à me demander si les beuveries de la dernière année valaient le coup. 2 ans avant, j'aurais répondu oui, c'était génial. Mais là, j'étais bien obligée de répondre que non. Que la plupart du temps, j'avais fait ou dit des choses qui m'avaient mise mal à l'aise le lendemain. Je devais faire quelque chose, mais c'est très compliqué. C'est pas boire ou ne pas boire. C'est un mode de vie qui est en jeu.
Vous vous êtes fait aider ?
J'ai surtout rencontré quelqu'un qui a arrêté de boire en même temps que moi. Et on a réappris à faire les choses, une par une. Ça m'a aussi permis de progresser en réfléchissant à ce que c'est d'écrire et aussi pourquoi ça génère une telle angoisse. Ça fait 25 ans que j'écris et l'angoisse est toujours là. J'ai simplement fini par accepter que c'est un élément du paysage et qu'elle n'empêchera pas le livre d'aboutir. Mais il faut en passer par ces étapes où l'on est absolument convaincu qu'on n'y arrivera pas, que le livre est nul et qu'on n'écrira plus jamais.
C'est un sentiment partagé par vos confrères écrivains ?
Bien sûr. Mais je me demande si cette conversation sur l'angoisse d'écrire, je ne l'ai pas plus fréquemment avec les femmes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles confessent plus facilement leurs moments de vulnérabilité ou si un inconscient collectif nous rend plus sujettes à l'angoisse de s'autoriser à écrire et à publier. Ce serait intéressant de s'interroger là-dessus. Raconter des histoires a été une prérogative masculine pendant des siècles et des siècles. Nous héritons de ça. Et au fond, nous transgressons beaucoup plus que nous le pensons. La transgression d'une femme bûcheronne est évidente. Celle de la femme écrivain ne l'est pas, et pourtant... C'est d'ailleurs pas un hasard s'il y a eu tant de discussions sur l'opportunité de féminiser le mot. Personne ne s'est roulé par terre quand on a parlé de factrice. Mais que de hurlements quand on a dit écrivaine, auteur, eux ou autrice. Comme si on affrontait encore un problème de légitimité.
Vous avez toujours écrit ?
Toujours. Dès que j'ai lu La Comtesse de Ségur, j'ai commencé à écrire des histoires dialoguées de petites filles. Et puis surtout, j'écrivais des lettres à tout le monde. Mes cousines, des filles de l'école. J'avais une activité épistolaire dingue. Je recevais une lettre et je répondais dans la journée.
Vous étiez donc une enfant très sociable ?
Oui, très ouverte sur les autres et le monde extérieur. Très en demande. Qu'est-ce que tu vas m'apporter de merveilleux et d'incroyable aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu connais et que je ne connais pas encore ? Convaincue que le monde recélait des tas de choses géniales que je devais vite découvrir.
Pourquoi alors cet internement en institution psychiatrique à 15 ans ?
J'étais une petite bombe, avec une envie de vivre géniale mais incontrôlable. J'avais l'impression que le monde m'appelait avec une telle urgence qu'il était inimaginable que je reste chez moi. J'avais 15 ans, quoi. L'âge où chaque rencontre te modifie, chaque découverte te bouleverse. Avec l'âge, je comprends le désarroi de mes parents et cette peur qui les a conduits à me boucler. C'est un sujet dont je ne reparle pas avec eux, mais si c'était à refaire, je sais qu'ils ne le referaient pas. Ce qui me frappe, c'est qu'on n'aurait jamais enfermé un jeune garçon qui, comme moi, marchait bien à l'école. On boucle plus facilement les filles. Ça n'a bien sûr rien résolu. En rentrant, comme on m'avait dit que si j'avais mon bac et un concours pour une école, je pourrais partir, eh bien je les ai eus. Et à 17 ans pile, toute seule, j'ai débarqué à Lyon.
Et c'est à 17 ans, après une virée à Londres, que vous êtes violée en rentrant en autostop.
Oui, c'est d'une violence inouïe. Mais je vais faire comme la plupart des femmes à l'époque, le déni. Parce qu'on est en 1986, avant Internet, et je ne sais pas que nous sommes nombreuses à vivre ça. Je crois que je fais partie de l'exception des 0,0001% des filles qui n'ont pas eu de chance. Et qu'au fond, puisque j'ai survécu, autant se taire et aller de l'avant. Comme ces millions de femmes à qui on dit depuis des siècles « si ça t'arrive, démerde-toi et n'en parle pas ». Les choses sont différentes aujourd'hui. En cliquant sur le web, tu comprends que ça arrive tout le temps, que c'est même un acte fédérateur. Tu lis même que Madonna a osé raconter avoir été violée à 16 ans. Eh bien, je t'assure que cette prise de parole est une révolution et qu'elle m'aurait bien aidée à l'époque.
Quelles ont été, pensez-vous, les conséquences sur votre vie ?
Qui aurais-je été sans ça ? C'est une question que je me pose souvent, je ne sais pas quoi répondre. Puis-je me dire, 30 ans après, que c'est passé ? Ou bien, est-ce qu'on reste toute sa vie quelqu'un qui a été violé ? Ce qui est sûr, c'est que c'est obsédant, que j'y reviens tout le temps et que ça me constitue. Le viol est présent dans presque tous mes romans, nouvelles, chansons, films. Je n'y peux rien.
J'imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça. Liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible, il est fondateur. C'est ce que vous écrivez en 2007 dans King Kong Theory.
Oui, il est au cœur de ce livre que je n'ai pas écrit légèrement, car tu n'es pas heureuse d'écrire là-dessus. Et tu ne sais pas si à sa sortie tu seras insultée ou lynchée. Tu t'attends au pire et tu te sens samouraï. Mais tu sais que c'est important. C'est comme une mission, presque un appel, alors tu y vas. Et le lien que ce livre a créé avec les lecteurs est absolument magnifique.
Parmi les jobs que vous enchaînez au fil des ans, notamment autour du disque, il en est un qui est loin d'être anodin.
La prostitution occasionnelle. Pendant 2 ans, et grâce au Minitel. Idéal pour gagner 4000 francs en 2 jours. Net d'impôts, un SMIC.
Vous avez écrit que cette expérience a été une étape cruciale de reconstruction après le viol.
Je le crois, ça revalorise incontestablement. Ce sexe n'avait donc pas perdu de valeur puisque je pouvais le vendre très cher et de nombreuses fois. Ça me redonnait un pouvoir. C'est moi, cette fois, qui décidais de mon corps et en tirais un avantage.
Et est-ce à ce moment-là que vous vous interrogez sur ce qu'est vraiment la féminité ?
Non. J'ai toujours réfléchi à ça, puisque ça n'a jamais été pour moi une évidence. Et plus le temps passait, plus ma colère montait sur ce qu'on exige des filles au nom de la féminité. Il y a une étude qui a été publiée il y a 5 ans qui l'exprimait parfaitement. On faisait passer à des petits garçons et des petites filles de 5-6 ans un faux casting pour une pub de yaourt. Et sans leur dire, on avait salé le yaourt. Les petits garçons, sans exception, font beurk devant la caméra, car le yaourt est infect. Les petites filles, elles, font semblant de l'aimer. Elles ont compris qu'il faut d'abord penser à celui qui les regarde et lui faire plaisir. Eh bien, c'est exactement ça, la féminité. Ne sois pas spontanée, pense à l'autre avant de penser à toi, avale et souris. Tout est dit.
Elle ne peut se résumer à cela.
Non, bien sûr. Et je ne vais pas expliquer à des femmes qui se sentent bien dans ce cadre qu'elles doivent en sortir. Mais franchement, quand je vois ce qu'on exige des femmes, le carcan de règles et de tenues qu'on leur impose, leur slalom périlleux sur le désir des mecs et la date de péremption qu'elles se prennent dans la gueule à 40 ans, je me dis que cette histoire de féminité, c'est de l'arnaque et de la putasserie. Ni plus ni moins qu'un art de la servilité. Mais c'est si difficile de se soustraire à l'énorme propagande. J'ai fini par en être imprégnée moi aussi. Et en un réflexe de survie sociale, après le scandale du film Baise-moi, qui m'a quand même torpillée, j'ai tenté de me fondre un peu dans le décor. Je suis devenue blonde, j'ai arrêté l'alcool, j'ai vécu en couple avec un homme, et ça a raté.
Mais alors vous ne seriez pas arrivée là, à cette période heureuse de votre vie où vos livres sont attendus, célébrés, si...
Si à 35 ans, je n'étais pas devenue lesbienne.
Ce serait un choix.
Je suis tombée amoureuse d'une fille. Et sortir de l'hétérosexualité a été un énorme soulagement. Bon, je n'étais sans doute pas une hétéro très douée au départ. Il y a quelque chose chez moi qui n'allait pas avec cette féminité. L'impression de changer de planète a été fulgurante. Libérée de la séduction hétérosexuelle et de ses diktats. D'ailleurs, je ne peux même plus lire un magazine féminin, plus rien ne me concerne. Ni la pipe, ni la mode.
Le discours vous semble partout hétéronormé.
Partout. Le féminisme change heureusement les choses. C'est une des plus grandes révolutions qu'on ait connues. Mais historiquement, la femme est au foyer, et il ne faut pas qu'elle brille trop. Ça m'a toujours frappée de voir que chaque fois qu'une femme, scientifique, cinéaste, musicienne, écrivaine, connaît un grand succès, elle perd son couple ou le met en danger. On plaint son compagnon. L'inverse est évidemment faux.
La jalousie peut aussi exister dans un couple homosexuel.
Ça reste une histoire entre deux personnes, mais il n'y a pas de rôle attribué, rien de normé socialement. J'ai même l'impression que chacune aime le succès de l'autre. Ton rayonnement, a priori, ne repose pas sur l'idée que ta meuf t'est inférieure. Autant l'hétérosexualité peut te tirer vers le bas en tant que créatrice, autant l'homosexualité épanouit la création.
La loi autorisant le mariage gay, elle jouait un rôle dans le changement de regard?
Je ne souhaite le mariage à personne, mais si tout le monde a les mêmes droits, ça facilite la vie. En participant à la dernière Gay Pride, qui était si joyeuse, et en voyant ces milliers de jeunes gens, je me disais que c'était la première génération qui pouvait annoncer son homosexualité à ses parents sans qu'ils pleurent. Pour les gens de mon âge, l'outing allait de tragique à difficile. Il y avait toujours un moment où les parents pleuraient. Et c'est super dur de faire pleurer tes parents pour ce que tu es. Aujourd'hui, ils peuvent se dire « ça va, tu ne seras pas forcément malheureux ». Et ils peuvent même l'annoncer aux voisins.
Passé 40 ans, tout le monde ressemble à une ville bombardée. Avez-vous écrit quelque part ? Vieillir vous fait peur ?
La cinquantaine venant, j'ai peur de mourir, c'est la direction. Mais ça va, c'est même plutôt cool. En fait, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il y a 20 ans. Et il y a des tas de femmes d'âge mûr que j'appelle les madames, qui me fascinent et indiquent un joli cap. Je n'ai pas de modèle, je ne sais pas comment on va inventer ça, vieillir, mais quand je vois Marianne Faithfull sur scène, même avec sa canne, je me dis « pas mal ». Et même « j'adore ». Classe.
Le bien le plus précieux, justement, de Marianne Faithfull est une lettre dans laquelle son père lui dit qu'il est fier d'elle. Avez-vous cette reconnaissance de vos parents ?
On n'est pas proches, mais leur regard sur moi est bienveillant. Je crois qu'ils sont contents.
Et ça compte ?
Eh bien oui. Un des trucs qui m'a le plus touchée quand j'ai reçu le prix Renaudot, c'est que ça a fait plaisir à mon père. C'est pas un super loquace. Il a pas marché sur les mains, mais il l'a exprimé. Et c'est vachement important.
Je ne serais pas arrivée là si... Entretien avec Annick Cojan pour le journal Le Monde, sur une idée originale de Judith Henry. Lu par Judith Henry et Julie Gaillet. Musique originale, Vincent Segal. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Juliette Eman. Entretien publié aux éditions Grasset.